Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'évangile de Matthieu. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble un long chapitre, le 13e. Il compte 58 versets et contient 8 paraboles. Je pense que nous sommes tous familiers avec les paraboles sur le royaume des cieux. Beaucoup de pasteurs aiment prêcher sur ces histoires symboliques. C'est vrai qu'elles sont toutes relativement courtes et elles semblent être assez faciles à comprendre, du moins au premier abord. Mais si nous considérons l'ensemble du chapitre plutôt que les récits individuels, nous remarquons qu'il y a un fil conducteur qui les traverse et qui dépeint une image plutôt nouvelle. Je ne sais pas si Jésus a raconté ces histoires imagées dans l'ordre exact dans lequel les relate Matthieu, mais je crois fermement que l'auteur de cet évangile a été conduit par l'Esprit de Dieu et que par conséquent, pas un seul mot n'est dû au hasard. Parce que l'image globale de ce chapitre est quelque peu différente de ce que nous entendons généralement au sujet des paraboles sur le royaume des cieux, j'ai rejeté l'idée d'en faire plusieurs épisodes. Je veux les garder dans l'ensemble du tableau. Pour ce faire, je vais devoir laisser de côté de nombreux aspects. Je vous recommande d'autant plus de lire vous-même ce chapitre 13 de Matthieu. Pour le comprendre, nous aurons besoin d'une clé et je vais vous la donner dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais vous lire les versets 3 à 9. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et voici la version, jusqu'ici donc la version codée de Jésus. Mais c'est à ses disciples qu'il l'ouvre, qu'il explique la parabole. Je lis l'explication de Jésus qui se trouve dans les versets 19 à 23. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Le champ, c'est le monde, le semeur, c'est le Seigneur, et le blé que le semeur a semé symbolise l'enseignement de Jésus. Jésus parle dans ses paraboles de l'époque de la grâce jusqu'au moment de la récolte. Cette époque a commencé avec la première venue de Jésus il y a quelque 2000 ans et se terminera lors de sa seconde venue à la fin des temps. Puis viendra la moisson, c'est-à-dire le jugement devant le trône blanc dont il est question dans l'Apocalypse de Jean. Comme je l'ai déjà mentionné, nous n'avons pas assez de temps pour examiner les paraboles une à une. Mais je mentionne spécialement celle de la graine de moutarde parce qu'elle est souvent très mal comprise. Je lis les versets 31 et 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Je remarque qu'il existe une tendance croissante à interpréter toute l'écriture en fonction de notre situation individuelle et personnelle. Mais souvent, il ne s'agit ni de vous, ni de moi en tant qu'individu, mais des relations de Dieu avec Israël et ou avec les nations païennes. Ainsi, cette parabole ne dit pas que ma foi ressemble à une minuscule graine de moutarde qui un jour grandira pour devenir super grande et forte comme un arbre géant et que tout plein de joyeux petits oiseaux pourront y faire leur nid. Et pourtant, c'est ainsi que cette parabole est souvent interprétée. La semence ne représente pas ma foi personnelle, mais le message de Jésus. Nous devons utiliser la même clé pour toutes les paraboles de ce chapitre. Les paroles de Dieu sont vivantes, l'Écriture le confirme, comme des graines. Et c'est ainsi que de grands arbres ont poussé, ou, pour le dire autrement, décodé, que beaucoup de grandes églises ont vu le jour. Mais des oiseaux y font leur nid. Dans la Bible, sauf indication contraire, les oiseaux représentent les péchés. Jésus nous dit donc, dans cette parabole, que grâce à sa parole, des églises ont été fondées, mais aussi que dans celles-ci s'infiltrent de fausses doctrines, des enseignements qui ne sont pas de Dieu. Jésus dit quelque chose d'un peu similaire dans la parabole de la femme qui mélange du levain dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Là, il s'agit d'un seul verset, c'est le verset 33. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Il ne s'agit pas là de la bonne nouvelle qui convertira toute la masse. Cela irait à l'encontre des deux premières paraboles dans lesquelles nous voyons que seulement une petite partie de la semence lèvera. Non, le levain signifie, lui aussi, le péché, la fausse doctrine. C'est pourquoi qu'avant Pessa, la Pâque juive, les Juifs doivent fouiller leur maison de fond en comble de peur que du levain ne s'y trouve, c'est-à-dire du péché qui risquerait de contaminer toute la maison. Dans Matthieu, les trois mesures de farine ont également leur signification, comme tout ce que nous trouvons dans la Bible. Trois, c'est le nombre de Dieu. Par conséquent, la pâte qui vient de Dieu signifie le christianisme composé de croyants convertis d'origine juive et non juive et de chrétiens nominaux pour qui la religion n'est que tradition et mode de vie. Ce christianisme mondial s'est séparé en trois grandes parties. La partie catholique romaine, la partie orthodoxe et la partie protestante. Les trois sont corrompus par le péché et la fausse doctrine. Je suis sûre que vous vous souvenez aussi des paraboles du trésor dans le champ et de la perle précieuse. Elles sont très courtes, elles aussi, donc je vais vous les lire. Ce sont les versets 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va rendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Elle est allée vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. J'avoue avoir, moi aussi, déjà prêché sur ces paraboles pour dire que la personne qui reconnaît son salut en Jésus renonce à tout pour n'avoir que Jésus, qui symboliserait le trésor dans les champs, respectivement la perle précieuse. Que nous devons, nous, avoir le courage de prendre la bonne décision et que rien n'est trop précieux pour que nous ne puissions le donner à Jésus. Bien sûr, c'est vrai et biblique, mais ces deux courtes paraboles parlent d'autre chose. Car, puisqu'elles sont si semblables, pourquoi Jésus aurait-il raconté deux histoires alors qu'une seule aurait suffi? Notons tout d'abord que le trésor est dans un champ. Le champ représente Israël. La perle, en revanche, vient de la mer. La mer, dans la Bible, représente les nations, donc toutes les nations qui ne sont pas Israël. Jésus est celui qui a vraiment tout abandonné pour qu'Israël, et ensuite que nous aussi, les nations, puissions avoir la vie éternelle. Rien n'était trop dur, trop précieux pour lui. Il s'est sacrifié lui-même pour nous sur la croix. D'abord Israël et ensuite nous les nations. Est-ce que ce n'est pas magnifique, cette grâce non méritée? Maintenant, si nous voulons résumer ces paraboles, voilà ce que ça donnerait plus ou moins. La parole de Dieu est semée. Pourtant, la majorité des graines ne donnera pas de plantes, c'est-à-dire que la majorité des gens qui entendent l'Évangile n'y croiront pas. Ils sont trop occupés à faire de l'argent, ou alors ils sont tellement absorbés par le quotidien que rien d'autre ne peut les toucher. Jésus nous dit aussi qu'il y a des hommes qui sont prêts à croire, mais dès qu'une crise les secoue, ils oublient tout et essaient de reprendre en main ce que de toute façon ils ne peuvent pas contrôler. Seulement, une relativement petite partie des graines poussera. Elle représente les vrais croyants. Maintenant, Jésus nous met en garde des mauvaises herbes. Elles aussi, elles poussent un peu partout. Ce sont ceux qui ne font que prétendre être croyants et cependant ne pensent qu'à leur propre avantage. Cependant, ce n'est pas à nous de faire le triage entre les vrais et les faux croyants. Il se fera à la fin de cet âge, lors du jugement devant le trône de Dieu. Ne croyons pas que nous ayons tout compris et que l'Église que nous fréquentons est sans défaut de doctrine. Toutes les églises portent en elles des traces de corruption et de faux enseignements. Et ceci malgré le fait que Jésus ait donné sa vie pour nous afin que personne ne se perde, mais ait la possibilité d'obtenir la vie éternelle. Alors, mes bien chers, c'était un épisode dense avec beaucoup d'enseignements. Nous toutes et tous sommes des perles précieuses et Jésus a préparé notre chemin vers le salut sur la croix. Laissons-le nous trouver, comme le bon berger qui retrouve sa petite brebis perdue. Et restons près de lui, suivons-le pas à pas. C'est la très, très meilleure chose qui puisse nous arriver dans cette vie. Voilà. Dans une semaine, nous poursuivrons avec le 14e chapitre de l'Évangile de Matthieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.